Donc moi, je parlais de changement climatique et d'agriculture. En prenant l'exemple de deux plaines agricoles en Normandie, la plaine de Caen-Falaise du Neubourg-Saint-André, donc un terrain dans le Calvados et un terrain dans l'Eure. C'est une thèse qui s'effectue sous la direction d'Olivier Cantat, climatologue au laboratoire LETG, et de Philippe Madeline, ruraliste au laboratoire ESO. Alors on peut déjà établir un premier constat à partir de données mesurées, observées à Cancarpiquet entre deux normales climatiques allant de 1950 à aujourd'hui. La température moyenne a augmenté de plus 0,8 degrés. Mais on peut également établir des perspectives à partir de données sorties des modèles climatiques pour trois scénarios RCP du GIEC. Donc un premier où on aurait une réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un forçage radiatif de 2,6 watts par mètre carré au sommet de la troposphère, donc c'est-à-dire qu'on irait vers l'accord de Paris. Donc dans ce cas-là, la température moyenne elle augmente de plus 1,1 degré par rapport à la première normale, donc celle de 1951-1980. Dans le cas où on aurait une politique climatique tardive, la hausse de la température serait de plus 2,1 degrés. En revanche, sans politique climatique, donc on continue à émettre des gaz à effet de serre, eh bien la température moyenne augmenterait de 3,6 degrés, ce qui traduirait une température moyenne de 14 degrés à Caen, soit l'équivalent des régions du sud. Donc aujourd'hui, le forçage radiatif il est de 3 watts par mètre carré, donc on est déjà au-dessus des objectifs pour atteindre l'accord de Paris. Et au vu du contexte géopolitique, on tend plutôt vers le scénario pessimiste, donc le 8.5, le tout dernier exposé. Donc dans ce contexte, il apparaît légitime de s'intéresser aux relations qui s'opèrent entre le climat et l'agriculture. Et nous, on s'intéresse plus particulièrement au blé tendre. Alors pourquoi le blé tendre? Alors c'est une culture qui occupe une place importante dans les productions végétales en Normandie. Donc le blé tendre dans la région, c'est 10,4% de la production nationale totale. En termes de surface, les surfaces qui y sont allouées en Normandie, ça représente un peu moins de 10% des surfaces qui lui sont consacrées à l'échelle française. On a des rendements en moyenne de 77 quintaux par hectare, soit au-dessus de la moyenne française, mais dans certaines zones, on peut même dépasser les 100 quintaux. On a un blé principalement destiné à l'exportation, et on s'intéresse donc à deux plaines, la plaine de Caen-Falaise à l'ouest et les plateaux de l'Eure à l'est, où on a respectivement un blé qui occupe 45% et 55% de la surface agricole utile. Ces deux terrains ont aussi une justification climatique, puisque le premier à l'ouest est sous l'influence d'un climat océanique, alors que le second, plus dans les terres, à l'est, est sous l'influence d'un climat océanique dégradé par continentalisation. Alors si on s'intéresse aussi au blé, c'est pour tout l'aspect mondial de cette culture, c'est la plante la plus géographiquement répandue dans le monde, l'alimentation de base de 40% de la population mondiale. D'après certains experts géopolitiques, ça pourrait être le pétrole doré de la France dans les prochaines décennies. Il y a aussi l'aspect historique, puisque c'est une plante qui est née il y a 10 000 ans en Mésopotamie, qui a permis la révolution agricole et le développement des civilisations méditerranéennes. C'est aussi une plante robuste cultivée sous différentes latitudes, donc sous différents climats, mais qui peut rester sensible à différents aléas météorologiques et climatiques. Étudier le blé, c'est aussi étudier le climat sur l'ensemble d'une année, puisque cette culture est semée au mois d'octobre et récoltée au mois d'août. C'est tous ces éléments qui vont justifier l'intérêt qu'on va porter à cette plante. Donc aujourd'hui, ces systèmes d'exploitation céréaliers pourraient être fragilisés. On peut prendre, pour exemple, le nombre de jours d'échaudage thermique. Donc dès lors que la température maximale est supérieure à 25 degrés, on peut avoir un impact sur le point des grains, donc sur les rendements. En période de référence, donc 1976-2005, on a en moyenne sur la région 6 jours d'échaudage. Dans le cas d'une politique climatique, la hausse du nombre de jours d'échaudage serait assez faible. En revanche, sans politique climatique, on multiplie par 4 le nombre de jours d'échaudage actuel. Et on constate d'ailleurs que pour nos deux terrains d'études, on a plus de jours d'échaudage dans l'heure. On peut également s'intéresser à l'offre climatique, c'est-à-dire au total pluviométrique, ici du mois de mars au mois d'août, donc sur la période où le blé va être gourmand en eau. On constate qu'en période de référence, on a 352 mm de pluie. Dans le cas d'une politique climatique, on aurait une offre climatique équivalente. En revanche, si on continue d'émettre des gaz à effet de serre, on aurait une diminution de ce total pluviométrique. J'attire votre attention sur le fait que nos deux terrains d'études se situent dans les zones les plus sèches de Normandie. Et dès lors qu'on a un stress hydrique, on a un impact sur l'activité photosynthétique de la plante. Elle va refermer ses stomates, réguler sa transpiration. Et donc, ça va avoir des impacts sur sa croissance, son développement et, in fine, sur les rendements. Donc c'est un contexte assez alarmant pour la culture du blé. On pourrait donc, on part de l'hypothèse de dire que ces deux impacts pourraient engendrer une baisse des rendements. Donc c'est autour de cette question, quel avenir pour le blé en Normandie, que va s'articuler cette communication en quatre parties. Une première relative à la méthode, aux données utilisées. Une seconde à la représentativité des données sorties des modèles climatiques pour pouvoir projeter les agrosystèmes en 2100. Une troisième partie qui va justement exposer quel climat on pourrait avoir en 2100 et quelles conséquences sur le blé. Et une dernière partie qui sera relative au point de vue des exploitants agricoles sur le changement climatique à partir d'une enquête réalisée en 2016 pendant mon master. L'objectif, c'est de s'intéresser aux conséquences du changement climatique sur la culture du blé en intégrant l'ensemble des éléments de l'agrosystème, donc ce qui reviendrait à mettre en évidence les vulnérabilités et les opportunités, s'il y en a, pour la céréaliculture de demain en Normandie. On a trois principaux questionnements qui vont guider la recherche, à savoir si les espaces agricoles vont répondre de la même manière au changement climatique, si la culture du blé sera toujours possible et ou rentable en 2050 et en 2100, et si les modes de pensée sont adaptés à ce changement. Ça traduit une problématique qui gravite autour des enjeux et des perspectives pour l'agriculture de demain, centrée autour du blé tendre, et la finalité, c'est que ces résultats puissent être utiles tant pour la recherche que pour la filière agricole. On va s'intéresser à l'évolution dans le temps et dans l'espace de différents indicateurs climatiques, que l'on va appeler indicateurs phénoclimatiques, dans la mesure où on les combine à la phénologie. C'est-à-dire qu'on va faire une somme de température, base 0 écrêtée à 28 degrés, de manière à déterminer la date d'apparition des différents stades qui vont se succéder au cours du cycle du blé. Et à chaque stade, eh bien, on a une sensibilité plus ou moins importante à ces différents indicateurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le fait que, une année, le stade épi 1 cm, il aura lieu le 25 mars, une autre année, le 28 mars. On va prendre en compte la variabilité du climat, plutôt que de rester sur une approche fixiste en se disant l'évolution de tel indicateur sur tel mois ou telle décade. Donc, on s'intéresse à des indicateurs strictement climatiques, température, donc gel, basse température, élevé, excès, donc par exemple l'échaudage, ça rentre dans cette catégorie, les précipitations, les fortes précipitations, les excès, les déficits, le rayonnement, le vent, l'humidité, et puis on s'intéresse également aux conditions biopédoclimatiques, à l'interface entre l'atmosphère, la plante et le sol. Donc on va estimer une réserve utile, le potentiel en eau pour notre sol, donc ce qu'il va pouvoir retenir, mais également son évolution dans le temps, c'est-à-dire l'eau qui va être mobilisable pour la plante. On s'intéresse également au confort hydrique, au déficit pour estimer un besoin en irrigation. Ceci passe par une technique d'analyse, le bilan hydrique, donc ici à décroissance logarithmique, de manière à prendre en compte le fait qu'à mesure que la réserve en eau se vide, la plante a plus de difficultés à pomper cette eau. Pour déterminer ce besoin en eau, on prend en compte un coefficient cultural qui va varier en fonction de la phénologie. Donc, par exemple, il va être de 0,1 à la levée, mais il sera de 1,2 à la floraison. On le multiplie au potentiel atmosphérique, à savoir l'évapotranspiration potentielle. Ça nous donne une ETM, l'évapotranspiration maximale de la culture. Quand le total en eau disponible est inférieur à cette ETM, alors on a un déficit. Notre modélisation se base sur un semi mi-octobre en pleine de Caen et début octobre dans l'heure, c'est-à-dire qu'on sème plutôt dans l'heure, notamment parce qu'on n'a pas le même climat, et pour d'autres raisons de l'itinéraire technique, et que là je ne maîtrise pas. Donc on s'appuie sur des données climatiques, d'abord des observations. Donc on va avoir deux stations de type 0 à Cancarpiquet et Évreux-Ouest pour nos deux terrains d'étude, situées sur des aéroports, donc qui vont être représentatives des espaces plans et dégagés de la céréaliculture. Au besoin, on peut s'appuyer aussi sur d'autres stations, par exemple en plaine de Caen, sur celle de Saint-Sylvain et de Loudon, si on veut affiner notre travail. On peut également disposer de données sorties de la modélisation pour des années vraies. C'est le modèle Safran-Isba de Météo France avec une résolution de 8 km. Mais pour projeter les agrosystèmes en 2100, on a besoin d'utiliser des données qui sont sorties des modèles climatiques. C'est la modélisation prédictive du climat. C'est-à-dire qu'on va représenter le climat de la planète à différentes échelles spatiales et temporelle. Donc, les modélisateurs du climat vont représenter les différents processus physiques du système climatique. Ils vont les traduire par des équations mathématiques et ensuite un codage informatique. Donc, il va y avoir des modèles d'océans, de la cryosphère, des surfaces continentales et de l'atmosphère pour avoir l'écoulement atmosphérique. Donc, tous ces éléments, ils vont être combinés. On va avoir des champs de couplage et des modélisations qui sont faites pour les différents scénarios du GIEC, donc ceux que j'ai présentés en introduction. Donc d'un point de vue conceptuel, ça représente à la figure de gauche. En fait, toutes les petites variables sont dans des petits cubes, donc l'atmosphère est mise dans des petits cubes, l'océan, etc. Et toutes ces variables interagissent par une discrétisation mathématique et spatiale. Le problème de ces modèles, c'est que les données qui en sont sorties ont une résolution de 100 à 150 km. Donc, c'est-à-dire que si on utilise des données d'un modèle climatique, on ne va pas pouvoir dissocier le climat de Caen d'Evreux ou toutes les disparités climatiques de la région. Donc on va utiliser les données sorties d'un modèle régional. Donc pour cela, les modélisateurs vont faire un downscaling, une descente d'échelle, pour prendre en compte l'occupation du sol, l'hydrologie, le relief, donc différents éléments qui vont agir sur le climat local. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des modèles à air limité. En France, on en a deux. On a celui de Météo France, du CNRM, donc le modèle Aladdin Climat, et celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, le modèle WRF. On peut donc avoir des données selon une grille de 8 km. Donc, c'est-à-dire qu'on va bien pouvoir dissocier le climat de Caen du climat d'Evreux. Alors, on peut également faire des mesures expérimentales sur le terrain, donc par exemple sur une parcelle, pour valider notre modélisation à échelle fine ou établir les limites et corriger ce modèle. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on dispose aussi de données pédologiques, notamment pour notre bilan hydrique, à partir des travaux de Patrick Legouet pour le Calvados, du CEN pour l'Eure, mais également de l'INRA à l'échelle française. Et on peut également affiner ces données pédologiques en faisant des sondages tarières dans une parcelle, par exemple, pour voir la variabilité des sols à une échelle très fine. Et il y a un dernier volet à cette recherche, c'est l'enquête en sciences sociales. Donc l'idée, c'est de comprendre le fonctionnement de l'agro-système, de la parcelle, de l'exploitation, connaître le climat vécu sur le terrain et comment s'adapte l'exploitant agricole aux conditions climatiques, et confronter ces éléments aux données climatiques et météorologiques, connaître le crédit accordé au changement climatique pour établir les conditions d'adaptabilité. Donc tout ça en lien avec la modélisation agroclimatique. Alors pour le moment, cette enquête n'a pas été réalisée, ce sera à faire dans la deuxième partie de la thèse. Alors avant de projeter les agrosystèmes en 2100, l'idée ici, c'est de vous présenter la représentativité des données sorties des deux modèles climatiques par rapport aux observations, donc aux données mesurées en station. C'est-à-dire qu'on a repris les données d'Aladin, on les a insérées dans notre modélisation, on a fait pareil pour WRF et la même chose pour Caen Carpiqué. Et ensuite, on compare. Donc, pour différents indicateurs, donc par exemple la durée du cycle. Donc, avec les données d'Aladin, on obtient une durée du cycle de 288 jours. Avec WRF, 290 jours. Avec Caen Carpiqué, 280. Donc, on a un écart de 8 à 10 jours pour la date de maturité. Donc, on pourrait se dire que ça peut être embêtant, mais au final, comme le cycle s'étale sur presque 300 jours, la marge d'erreur n'est que de 3%. Donc, c'est quand même, ça montre bien la performance de la modélisation. On s'intéresse également au nombre de jours de vernalisation. Donc, le blé, l'hiver, il a besoin de température entre 3 et 10 degrés pour pouvoir fleurir ensuite au printemps. On s'aperçoit que le nombre de jours de vernalisation entre données observées et modélisées est à peu près équivalent. Pour les gelées, il en va de même. Pour le rayonnement entre Aladdin et Caen Carpiqué, on a une sous-estimation, mais ça reste dans le champ des possibles. Avec Aladdin, on peut pas obtenir, avec WRF, pardon. On ne peut pas obtenir ce rayonnement. Donc, ça, pour le déficit hydrique, on peut l'avoir qu'avec Aladdin aussi. On s'aperçoit qu'on a un déficit hydrique équivalent. En revanche, pour les chaudages thermiques, donc les températures maximales supérieures à 25 degrés, ici entre la méiose et la maturité, avec Aladdin, on a 4,8 jours, WRF 3,6, Caen Carpiqué 7,4. Donc, on a une sous-estimation. Pour la température moyenne et le cumul pluviométrique, on est à peu près dans les mêmes tendances. Donc tout ceci, ça révèle un biais froid qui est plus marqué pour WRF, donc c'est-à-dire que la modélisation a tendance à sous-estimer les températures maximales et les épisodes de chaleur. Avec Evreux, je ne l'ai pas exposé, mais on fait le même constat. Alors, s'il n'y avait pas de biais froid, on aurait probablement aussi des écarts entre la température observée et la donnée modélisée. Pourquoi ? Eh bien, ce serait probablement lié à la résolution du modèle, c'est-à-dire que le modèle, eh bien, il a une grille de 8 km. Or, la donnée, par exemple, de température qui est mesurée à Caen Carpiqué, ça va être pour l'environnement immédiat de la station. Donc, c'est-à-dire qu'on compare deux éléments dont on ne mesure pas la température à la même échelle, donc ce qui peut expliquer des écarts. Donc, on peut illustrer ceci par des mesures expérimentales. Par exemple, le 24 juin 2018, on a fait des mesures entre Hermanville-sur-Mer et Perrier-sur-le-Dent, au nord de la plaine de Caen. Donc, Hermanville est située en bas d'un versant. C'est-à-dire qu'en fait, si on monte de Hermanville et qu'on va jusqu'à Perrier, donc on va avoir un premier versant, une rupture de pente, et ensuite ça va redescendre sur Perrier, donc là où on a une petite vallée. Ce jour-là, on avait un vent de nord-est, renforcé par une brise de mer. Et au final, on avait le premier versant, donc d'Hermanville, exposé au vent, et à Périer-sur-le-Dent, on avait un versant sous le vent, donc en zone d'abri. Eh bien, on constate que pour la station posée à Hermanville, on a une température de 20,3 degrés, en rupture de pente de 20,6, et à Périer-sur-le-Dent de 20,9. Et en itinérance, dans la zone la plus abritée, on est même monté à 22,2. Donc, ce qui montre qu'on a un réchauffement quand on rentre à l'intérieur des terres, mais également lorsqu'on est en zone d'abri. Donc, ce qui montre qu'en quelques hectomètres, on a une variabilité spatiale des températures. Et tout ceci, le modèle ne peut pas le voir parce qu'il se situe à une résolution de 8 km. Donc, ce qui montre aussi l'intérêt des mesures de terrain au-delà de la modélisation. On peut également aussi s'intéresser à la représentativité des variabilités interannuelles. On dit qu'à Caen, on a 730 mm de précipitations à l'année. Mais c'est une moyenne. On a des années, on va avoir 800, puis l'année d'après, on va avoir 600 ou 650. C'est-à-dire que le climat n'est jamais le même d'une année à une autre. Donc si on s'intéresse ici par exemple à la durée du cycle, on peut constater que sur cette boîte et moustache, eh bien, la dispersion totale de la série WRF est plus importante que celle d'Aladin et des données observées. En revanche, Aladin lui va sous-estimer l'écart interquartile, donc les 50% des valeurs les plus centrales. Donc on pourrait se dire finalement que la modélisation n'arrive pas à représenter la même variabilité du climat. En fait, ces dispersions elles sont faites pour cette chronique, 1976-2005. Mais la modélisation va se faire de manière intemporelle. C'est-à-dire que le modèle il va projeter le climat jusqu'en 2100. Mais pour la période de référence, comme pour 2100, il va simuler son propre climat. On va lui dire voici les observations, donc tu nous fais le climat selon ces observations. Mais il va simuler sa propre variabilité. Donc par exemple, WRF simule un maximum de 320 jours à la fin des années 70. Aladin, lui, va simuler un maximum à la fin des années 1960. En réalité, à Cancarpiquet, ce maximum, il a eu lieu au début des années 1960. Donc, ce qui fait que si on décalait notre chronique ici, on aurait probablement une dispersion plus proche des valeurs observées. Donc, on compare une variabilité qui ne peut pas être totalement comparable dans la mesure où on n'a pas une remodélisation des années vraies. Donc, par exemple, l'année 76, avec le modèle, on ne va pas le retrouver en 1976, ça se trouve, va arriver en 82, comme elle va arriver en 63, parce qu'il resimule son propre climat. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évaluation de ces données? On a un biais froid, on a probablement des écarts qui peuvent être liés à la résolution du modèle, et puis on a une variabilité temporelle qu'on ne peut pas vraiment comparer. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse pour l'horizon 2100, c'est les tendances, les évolutions, à savoir si tel indicateur va augmenter ou diminuer de manière à pouvoir s'adapter à temps. Donc, on considère que ces données sont représentatives et ensuite elles sont remodélisées pour différents niveaux de forçage radiatif, donc c'est les scénarios du GIEC. Donc, il faut aussi considérer qu'on a bien des incertitudes épistémiques, donc inhérentes à la modélisation, mais qu'on a aussi des incertitudes réflexives. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore vers quel scénario on va vraiment aller. Pour le moment, on a plutôt une idée. On sait qu'on va continuer à émettre des gaz à effet de serre, donc on va avoir une augmentation de la température. Mais ça se trouve, peut-être qu'il va se passer quelque chose et qu'on va avoir une diminution des gaz à effet de serre. Donc, ce qui fait que, en plus du fait que d'un modèle à un autre, on peut avoir des différences, aller chercher ne pas avoir un écart, par exemple, de 9 mm, comme on l'a vu dans notre déficit hydrique, ce serait chercher à être précis dans une marge d'erreur. Donc, ça n'aurait pas trop de sens. Et pour notre étude, on a choisi de projeter le climat à partir du modèle Aladin, puisque c'est lui avec lequel on peut avoir tous les paramètres nécessaires à trouver tous nos indicateurs phénoclimatiques. Par exemple, avec WRF, on n'a pas le rayonnement. Alors, quel climat on pourrait avoir en 2100 en Normandie et donc pour le blé? Alors, rappelez-vous, en introduction, on a fait l'hypothèse d'un constat alarmant. D'autant plus que depuis le milieu des années 1990, les rendements ont stagné. D'après des agronomes, cette stagnation des rendements ne serait pas liée au progrès génétique ou aux itinéraires, l'itinéraire culturel, donc les doses d'azote par exemple, ou aux produits phytosanitaires. Ce serait principalement lié à une cause climatique, il y aurait plus de stress hydrique et plus d'échaudage thermique. Donc on pourrait se dire qu'avec les sécheresses plus importantes l'été et plus de chaleur, parce qu'on aurait un climat plus chaud et plus sec, on pourrait avoir des conséquences sur le rendement du blé. Mais on s'est posé une question, à savoir, est-ce que l'élévation des températures va permettre de raccourcir le cycle du blé de manière à éviter les impacts de fin de cycle? Donc premier élément de réponse, si on regarde l'ensemble des stades ici, donc là, on voit qu'avec l'élévation de la température, en fonction des différents scénarios, on va avoir un raccourcissement du cycle de la culture. Donc, par exemple, à Évreux, on a une date de maturité en période de référence, donc pour ces dernières années, estimée le 28 juillet. En revanche, avec le scénario pessimiste, l'élévation de la température est telle que la date de maturité, elle arriverait mi-juin. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus des moissons qui s'effectueraient en cours d'été, mais à la fin du printemps. Donc forcément, ceci, ça a des conséquences sur le cycle du blé. Si on s'intéresse au déficit hydrique, pour le scénario 4.5 et 8.5, donc les deux scénarios pessimistes, eh bien, on s'aperçoit qu'on aurait une réduction du déficit hydrique. Donc on aurait un blé qui souffrirait moins de sécheresse, contrairement au RCP 2.6. Et donc ceci, ça peut être une bonne nouvelle là où les terres sont les plus minces, notamment au sud de Caen et au sud d'Évreux. Parce que actuellement, donc par exemple si on regarde 76-2005, eh bien le déficit hydrique, là où on a des sols profonds, donc au nord de Caen et au nord d'Évreux, une réserve utile de 200 mm, on a seulement 60 mm de déficit hydrique pour notre blé. En revanche, au sud de Caen, il est de 127 mm. Donc on pourrait se dire finalement que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que l'échaudage thermique n'augmenterait pas. Mais finalement, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que l'avancement du cycle du blé pourrait révéler deux nouveaux impacts. Étant donné que la méiose n'aura plus lieu au printemps mais en sortie d'hiver, le blé pourrait connaître des températures inférieures à 4 degrés, ce qui pourrait impacter la fertilité des épis. La montaison s'effectuerait plus tôt dans l'année. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un déficit de rayonnement. Et enfin, les hivers étant plus doux, on pourrait avoir moins de jours disponibles pour la vernalisation. Donc, tous ces éléments, ils seront à discuter avec les écophysiologistes, les agronomes, de manière à savoir si ces impacts sont plus à redouter que les deux initialement craints, et si également la durée du cycle ne peut pas impacter l'élaboration du rendement. Donc, pour discuter et affiner la méthode, on est actuellement en train de suivre une parcelle, donc à Angarny, un exploitant qui a accepté qu'on pose un pluviomètre et un datalogger température hygrométrie avec une caméra time-lapse qui va permettre de prendre en photo l'évolution du blé sur cette parcelle. On va pouvoir corréler l'apparition des stades phénologiques à la température pour voir si les sommes de température correspondent à ce qui est exposé dans la bibliographie. Et puis ensuite, on va pouvoir se dire, on a telle somme de température pour tel stade. Avec les données climatiques de 2100, qu'est-ce que ça donnerait sur cette parcelle? On pourrait observer aussi d'éventuels impacts, s'il y en a dans les prochains mois, comparer avec les données de Cancarpiquet, mais aussi de Bernières, parce qu'on est à mi-chemin entre les deux stations, et puis confronter l'humidité du sol modélisée par la modélisation que j'ai présentée en première partie avec des relevés in situ à l'aide d'un tensiomètre. Alors, on pourrait aller plus loin et intégrer les mécanismes qui régissent la physiologie du végétal. Donc, par exemple, intégrer une somme vernalo-photothermique, c'est-à-dire qu'on pourrait pondérer notre somme de température par la durée du cycle et le nombre de jours de vernalisation au début du stade, au début du cycle, donc pour les premiers stades, ce qui permettrait d'affiner la date d'apparition des différentes périodes phénologiques. Ou bien on pourrait directement utiliser un modèle de culture, c'est-à-dire que lui, il va intégrer tous les mécanismes de la plante, mais aussi, également d'autres facteurs agronomiques. Donc ça peut être les pratiques agricoles, on va avoir les maladies, la résilience de la plante. Donc là, on pourrait passer de l'indicateur phénoclimatique à l'estimation d'un potentiel de rendement. Toutefois, si on utilise cette modélisation agronomique qui nécessite d'autres concepts que ceux de la géographie, il faudra garder à l'esprit que les paramètres d'entrée du modèle varient en réalité dans l'espace. Donc, gardez à l'esprit que les pratiques agricoles ou les données d'entrée dans notre modèle, par exemple la minéralisation, ce n'est pas la même d'une parcelle à une autre ou d'une exploitation à une autre. Et puis, rappelez aussi qu'il y a d'autres facteurs qui auront un rôle dans l'avenir de l'agriculture, à savoir l'économie. Est-ce qu'on va continuer à faire du blé avec une qualité suffisante pour exporter? Est-ce qu'on va vouloir exporter? Est-ce qu'on va plutôt se concentrer vers des cultures qui vont alimenter les circuits de proximité? Est-ce que des impacts climatiques dans d'autres régions agricoles ne pourraient pas jouer sur la loi de l'offre et de la demande? Il y a le rôle des politiques environnementales qui pourraient remettre en cause le modèle de l'agriculture actuelle, et puis les facteurs sociologiques, à savoir si les modes de pensée sont adaptés à ces changements. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les exploitants agricoles du changement climatique? Donc là, étant donné que je n'ai pas commencé l'enquête dans cette thèse, je vais vous exposer ce qui en ressort d'un travail réalisé pendant mon master, donc auprès de 17 exploitants agricoles en plaine de Caen. Donc des exploitants qui avaient quand même du recul sur leur exploitation, puisqu'ils avaient dans la majorité plus de 20 ans d'expérience. Donc avant l'entretien, il y avait un questionnaire où on demandait quel est l'élément qui vous inquiète le plus pour l'avenir de votre agriculture. Donc je précise que dans les questions précédentes, le climat n'avait pas été évoqué. La majorité va citer la variation du prix des cultures et d'autres les normes environnementales. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul exploitant qui va exposer le changement climatique. Ensuite, quand on avance dans l'enquête, eh bien, 41% de l'échantillon se dit quand même inquiet du changement climatique. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas l'élément qui leur vient en premier, mais quand on leur en parle, ça les inquiète tout de même. Alors, est-ce qu'ils ont constaté des évolutions? Eh bien, une partie de l'échantillon répond oui. Il y aurait des hivers plus doux avec une avancée de la végétation, donc ce qui va en lien avec les résultats qu'on en a trouvés, le raccourcissement du cycle. Des étés plus humides qui perturbent les moissons. Alors, il faut quand même rappeler que cette enquête étant réalisée en 2016, en 2015, il y avait des moissons perturbées par des précipitations, ce qui a pu jouer sur leur perception. Une avancée des dates de récolte qui est constatée. Alors ça, ça peut être lié aussi au volet variétal et à la modification des dates de semis depuis le début de leur carrière. Puis on a de longues périodes de pluie suivies de longues périodes de sec. On aurait des saisons moins marquées. Et je précise que certains exploitants gardent une réserve quant au fait que ça puisse être attaché au changement climatique. Alors on leur a demandé ensuite eh bien, comment vous adapteriez eh bien, votre exploitation face à la nouvelle donne climatique. Donc pour la majorité, ça passe par le volet génétique, de nouvelles variétés ou une modification de l'assolement. Pour certains, eh bien, ils évoquent l'irrigation, donc soit stocker les surplus hivernaux s'il pleut plus l'hiver, ou alors continuer l'irrigation traditionnelle à partir d'une nappe phréatique ou d'un cours d'eau. Donc tout ceci, ça nous donne des perspectives. Réinterroger ces exploitants pour savoir s'ils ont toujours le même point de vue depuis 2016, étendre l'enquête aussi au département de l'Eure. Alors pour l'adaptation, qu'est-ce qu'en dit la recherche agronomique? Modifier les dates de semis, est-ce que ça pourrait être une solution? Eh bien par rapport à ce que j'ai montré, c'était pour des pratiques inchangées, par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc on pourrait se dire, étant donné qu'on va avoir des basses températures à la méiose et un déficit de rayonnement en montaison, pourquoi pas retarder la date de semis, de manière eh bien, à pouvoir décaler ces stades. Effectivement, on aurait plus de rayonnement en montaison et moins de basses températures à la méiose. Le problème, c'est que la fin du cycle s'effectuera en été. Et dans ce cas-là, eh bien, le blé serait plus à même de rencontrer des fortes chaleurs et des sécheresses. Et pour les agronomes, eh bien, ça passerait surtout par une adaptation des variétés de blé. Donc trouver eh bien, des variétés qui vont répondre à de nouveaux idéotypes, c'est-à-dire des variétés qui seront tolérantes aux différents impacts que le blé pourrait rencontrer à l'avenir. Donc ça passe notamment par de l'hybridation et des projets de phénotypage. Donc ils vont croiser différents blés et essayer de trouver celui qui répond vraiment aux attentes demandées. Mais il convient aussi de garder à l'esprit qu'il existe des semences paysannes, donc c'est-à-dire qu'on a on a énormément de variétés de blé, beaucoup de blé qui ont été oubliés par l'intensification de cette agriculture, qui fait que bien, si on a besoin d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et répondant à une variabilité du climat qui pourrait être changée, eh bien peut-être que les variétés paysannes pourraient y répondre. Même s'il faut bien préciser que les rendements des variétés paysannes sont inférieurs à celles que l'on cultive actuellement. Et puis, bien s'il n'y a vraiment pas moyen de s'adapter, peut-être que ça pourrait passer par de nouveaux assolements. Alors, je n'ai pas précisé pour l'irrigation, mais si on retardait les dates de semis, le problème de l'irrigation, c'est qu'il y aura aussi une pression sur la ressource en eau, parce que, eh bien, avec moins de précipitations, eh bien, on aurait un rechargement des nappes phréatiques beaucoup moins important. Et outre la recherche, eh bien, je précise que les chambres d'agriculture s'intéressent désormais au changement climatique, puisqu'elles se dotent tous en région d'un observatoire. Alors pour conclure, c'est donc un sujet de recherche en agroclimatologie et en géographie rurale. L'idée, c'est de s'intéresser aux conséquences de ce changement climatique sur la culture du blé tendre. On utilise des données sorties des modèles climatiques pour pouvoir projeter le climat en 2100. On aurait un climat qui serait plus chaud et plus sec. Toutefois, l'élévation des températures permet de raccourcir la durée du cycle et donc d'éviter le stress hydrique et les chaudages thermiques de fin de cycle. Mais ça révèle de nouveaux impacts. La méiose et la montaison ayant lieu plus tôt dans l'année, eh bien on aurait un déficit de rayonnement et de basse température à cette méiose qui pourrait impacter la croissance et la fertilité des épis. Et puis, eh bien on aurait des hivers plus doux, donc ce qui pourrait jouer sur le nombre de jours de vernalisation. Donc tout ceci nous donne des perspectives, à savoir dupliquer cette méthodologie sur les dernières décennies, essayer de se dire, eh bien, on a l'évolution de tels indicateurs, pourquoi pas le confronter au rendement, faire par exemple une analyse multifactorielle, placer ces conditions futures dans un contexte national et mondial, donc qu'est-ce qu'il en est des régions agricoles, par exemple de l'Auvergne, du Nord-Pas-de-Calais, de l'Est de la France, ou même en Ukraine ou au Canada, pour voir si dans ces régions, eh bien, on aurait plus d'impact ou non sur le blé, et voir si ça pourrait jouer sur l'offre et la demande. Étendre l'enquête, poursuivre les mesures expérimentales et établir une analyse similaire avec un modèle de culture comme le font les agronomes. Et si cette méthode marche, eh bien pourquoi pas ensuite le faire pour d'autres cultures, par exemple de la betterave, du lin, des pommes de terre, et savoir eh bien, en 2050 et en 2100 quelle serait la culture la plus adaptée au climat de Normandie. Merci pour votre attention.